Bonsoir, merci pour votre présence à ce cycle Trésor du DAC et plus largement donc un cycle consacré de manière assez large à Jean Rouch. C'est le troisième épisode puisque ça ne figure pas sur l'écran. L'épilogue, le quatrième épisode, aura lieu le premier dimanche de décembre, le 4 décembre, aux ateliers Varan. Donc vous pouvez prolonger cette expérience de ce soir. Donc c'est un cycle de projection et de lecture, c'est ce qui singularise ces séances. Et qui, voilà, à l'initiative de ce cycle, il y a une anthologie de textes de Jean Rouch, publiée par Andrea Paganini, à qui je vais céder le micro immédiatement d'ailleurs, et qui donc, voilà, est à l'origine de ce projet. Donc on est très content d'accueillir cet hommage, est-ce qu'on peut utiliser ce terme, hommage à Jean Rouch. Et donc sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Andrea Paganini.
Merci beaucoup, Julien. Oui, hommage et découverte, je dirais, parce que Rouch est connu, mais pas tant que ça non plus. Et voilà, donc il y a des... Rouch écrivain n'est presque pas connu, je dirais. Et ces textes-ci que j'ai recueillis sont des textes assez particuliers qu'il a rédigés les deux dernières décennies de sa vie, les années 80-90, et qui ont été publiés parfois sur des supports très éphémères. Voilà, donc leur collecte était assez bienvenue, je pense, et ça montre aussi un Rouch un peu différent, puisqu'il a écrit toutes sortes de textes, des textes ethnographiques relatifs au cinéma documentaire, au cinéma ethnographique, en particulier à l'anthropologie visuelle. Et ces textes-là, plus de circonstances, qui sont des portraits dédiés à des compagnons de route avec qui il a collaboré de manière plus ou moins intense tout au long de sa vie, voilà, et n'étaient pas tout à fait visibles. Voilà. Un peu la même chose pour les films aussi. Donc une découverte du cœur innombrable de cette œuvre. C'est une expression que Rouch utilise dans le texte à Sandro Franchina et qui reprend le titre du premier recueil de poésie de Anna de Noailles. Donc pas seulement un cœur, mais plusieurs cœurs. Nous avons commencé aux ateliers Varan en montrant l'importance de Rossellini pour Rouch. Rossellini et ses enfants, disons, qui étaient les enfants de la Cinémathèque, les jeunes turcs de la Nouvelle Vague, mais aussi l'importance de Enrico Fulchignoni, de l'UNESCO par exemple, de tout ce pan-là aussi qui est assez inconnu aussi, avec un très beau portrait, ciné-portrait de Farrokh Ghaffari. Ça c'était la première séance inaugurale à Varan. Puis ici à Pompidou, nous avons parlé de Henri Langlois bien sûr, de Mary Merson, de leur musée. Un autre cœur, c'était le quintet, comme j'aime bien dire, qu'a formé Rouch toute sa vie durant des années 40 aux années 2000 avec ses amis nigériens, acteurs mais aussi auteurs de ses films, de ses beaux films collectifs que vous connaissez tous, je pense, que sont Jaguar, Cocorico Monsieur Poulet, Madame Lowe, etc. Donc l'importance aussi de ce noyau-là, de ce cercle-là nigérien qui irrigue l'œuvre. Et aujourd'hui, donc, on part un petit peu ailleurs, on parcourt le monde et on fera des étapes au Japon, aux États-Unis et en Europe. On revient en Europe, en Belgique et aux Pays-Bas. Et à chaque fois, nous rencontrerons des compagnons de route de Rouch. Cette séance mettra en lien de manière assez directe les textes écrits, donc les saluts, les hommages et les portraits écrits par Rouch, et les portraits, saluts, hommages filmés. D'ailleurs, Rouch invente une expression nouvelle, ciné-portrait, pour ce type de film très stimulant qu'on va voir. On en verra trois aujourd'hui, qui sont donc des portraits faits avec le portraituré, bien entendu, contrairement au texte, et des portraits dynamiques et particulièrement enlevés, enthousiastes. Pour nous lire les textes, certains relativement courts, le dernier un peu plus long, nous avons le grand plaisir d'accueillir Noël Herp, que vous connaissez certainement, donc qui est évidemment universitaire, critique historien du cinéma, en particulier du cinéma français, qu'il connaît, dont il connaît certains pans comme sa poche. Mais Noël est également écrivain tout court. Il est également réalisateur et acteur, dans ses films ou pas. Voilà, donc je suis ravi qu'il soit là et qu'il nous fasse la gentillesse de lire les textes. La séance sera divisée en quatre petites parties. On fera entendre un texte suivi d'un film, quatre fois. Et à chaque fois, je vous présenterai très brièvement le couple écrit-film, écrit-cinéma. Voilà, donc on commence avec la première partie. Noël, si tu veux venir. Donc, on part au Japon tout de suite. Alors, le texte en question est un des tout derniers textes du recueil des années 2000. Il a été suscité par une manifestation à laquelle Rouch a collaboré pratiquement depuis sa première édition. Là, en 2000, c'était la 17e édition. Ça s'appelait les RIAV, les Rencontres internationales de l'audiovisuel scientifique. Images et sciences, c'était le sous-titre. Et une manifestation créée et dirigée par Jean-Michel Arnold et sa compagne Annick Demeul, toute sa vie durant, pendant presque 30 ans, à laquelle Rouch participait très activement, en proposant des films, parfois en avant-première, en les commentant, en parlant, ce qu'il aimait beaucoup faire, et parfois en écrivant justement des textes pour le catalogue très épais de la manifestation, dont est tiré justement ce texte-là. Ce qui est très particulier, c'est que c'est un portrait triple. Rouch ne fait pas le portrait d'une seule personne, mais de trois. Il s'agit de trois amis compagnons de route japonais, assez différents les uns des autres. Alors le premier, c'est Taro Okamoto, qui est le célèbre sculpteur et peintre que vous connaissez peut-être, celui qui a fait le grand pilier du soleil pour l'exposition universelle à Osaka en 1970, et qui s'est formé à Paris, notamment, et qui a suivi des cours de Marcel Mauss en Sorbonne. Et c'est ce que rappelle Rouch, non seulement dans son texte, mais également dans le film. Puisque le film qui suivra, c'est un portrait, un ciné-portrait, le premier du genre, tourné en 73, finalisé en 74, de Rouch. Il a été le tourné à Tokyo, dans l'atelier de Taro Okamoto lui-même. Et vous verrez, c'est un très très beau portrait, très vivant. Alors de Taro Okamoto, Rouch passera à un deuxième personnage qui est producteur au départ, puis cinéaste également, et qui a beaucoup fait pour développer le documentaire au Japon, non seulement au cinéma, pardon, mais aussi à la télévision. Il a produit d'ailleurs le film de Rouch sur Okamoto. Il a produit d'autres films de Rouch. Et il a produit également le premier film de Yasuhiro Omori, qui est la troisième personne portraiturée dans ce portrait commun écrit, et qui, lui, est un des tout premiers anthropologues visuels, comme on dit, au Japon, qui a fait un film en France, lui aussi a étudié en France, et qui a été l'élève de Jean Rouch, qui était directeur de sa thèse filmée dans les années 70, une thèse donc où le film a été une partie du travail. Donc l'anthropologie visuelle sera très importante ce soir. C'est une discipline que Rouch contribue à mettre en place et à développer, justement aussi au niveau international, du Japon, justement, aux États-Unis et en Europe. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc Noël va nous lire ce triple portrait écrit, et après on aura la chance de voir le portrait du premier, du plus ancien des trois protagonistes, Taro Okamoto. Merci.
Merci Andrea. Vous m'excuserez par avance pour ma prononciation qui ne sera pas toujours impeccable sur tous les noms convoqués par Jean Rouch. Dans les années 30, un jeune peintre japonais, Taro Okamoto, s'installe à Paris, intrigué par le succès de son compatriote Fujita. Sa curiosité en éveil lui fait découvrir les cours d'ethnologie que Marcel Mauss dispense à la Sorbonne. Il le suit jusqu'à la guerre et ne quitte la France que lorsque Marcel Mauss doit porter l'étoile jaune et renoncer à son enseignement. De retour au Japon, Taro Okamoto poursuit ses recherches, publie l'esthétique et le sacré, et l'ethnographie le portant vers l'image, s'intéresse au nouveau cinéma en train de s'affirmer au Japon. Il encourage un jeune fou, Uchiyama, et transforme un documentariste enthousiaste en chercheur cinéaste. Les films tournés par Uchiyama au Vietnam restent exemplaires par leur force et leur rigueur. La paix revenue, Uchiyama crée une école de cinéma. En 1968, au pied du mont Fuji, il organise une grande rencontre internationale pour poser les jalons d'une nouvelle approche du documentaire. Sont invités entre autres Richard Lecoq, Jacques-Yves Cousteau, Joris Ivens, le directeur de la BBC et le futur réalisateur de Mondo Cané. Pendant 3 jours, nous montrons nos réalisations. Nous discutons passionnément. Une jeune société, la Nippon Audiovisual, achète nos films, Je vends cimetière dans la falaise, et demande d'être payé $1 de plus que Cousteau. En travaux pratiques, nous assistons à la révolte des étudiants et, avec Richard Lecoq, nous filmons les grandes manifestations. Très vite, Nippon Audiovisual devient une société exemplaire qui conjugue la diffusion télé et le cinéma sur grand écran. Après chaque documentaire, les téléspectateurs sont informés. Vous avez vu ce film dans de mauvaises conditions, buvant trop de saké et vous disputant avec votre épouse. Il passe désormais dans nos salles sur grand écran. Uchiyama est invité par la Cinémathèque française, qui consacre 2 semaines à sa production ethnographique. Enchanté par cet accueil, il invite Françoise Foucault, du comité du film ethnographique, à suivre au Japon le travail des jeunes réalisateurs. Ainsi, nous découvrons Omori. Yasuhiro Omori, jeune ethnologue cinéaste, va passer une année en France, année consacrée à suivre avec sa caméra une famille de gitans nomades du Val-de-Loire. Il en fera le sujet d'une thèse soutenue à Nanterre. Son travail reste pour nous exemplaire de la démarche d'un chercheur. Il tourne et monte ce film avec ses acteurs. Le montage terminé, il le leur projette, en débat avec eux, au sein de leur communauté, l'oriente différemment. Aujourd'hui, la roulotte de ces gitans, ainsi que tous les éléments qui en composaient l'intérieur et l'environnement domestique, est exposé dans une salle du musée d'ethnographie d'Osaka, musée dont Omori a fait le premier grand musée audiovisuel du monde. Sous son impulsion, le musée s'est doté de structures audiovisuelles qui courent le long des salles, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir les objets exposés dans leur contexte social et historique. Un masque admiré peut être aussitôt visionné en action. Des images retracent sa fabrication, son utilisation dans un rituel. On peut aussi, si on le désire, appeler d'autres films en comparaison. Une cérémonie d'Ogon avec un rituel inuit, une danse du Bénin et un ballet cambodgien. Bien entendu, on peut aussi acquérir des cassettes vidéo qui forment le riche matériau des leçons de géographie, des lycées et des cours universitaires. Omori dit « Dans un musée, on doit pouvoir toucher les objets, les sentir. Son musée est un musée modèle. »
Voilà donc le premier exemple de ciné-portrait. Donc quittons le Japon, allons aux États-Unis, mais restons dans le champ de l'anthropologie visuelle avec une de ses principales créatrices, disons, Margaret Mead, que Rouche aimait beaucoup, qu'il a fréquenté longtemps jusqu'à son décès. Et donc le ciné-portrait qu'il dédie à Margaret Mead, il le tourne en 77, en septembre 77, quelques mois avant qu'elle ne décède. C'est les dernières images qui restent d'elle. Il va la trouver à New York, au Muséum d'Histoire Naturelle, où elle a toujours officié, dans son bureau d'abord, puis dans les galeries du muséum, et jusque dans le jardin. Rouche est à l'image, comme d'habitude, et au son, il y a John Marshall, que vous connaissez certainement si vous êtes dans le champ de l'anthropologie visuelle, qui était un petit peu un élève de Mead. Et un grand ami de Rouche. D'ailleurs, le film, et Rouche en parle dans son texte, qui est presque contemporain. Et c'est un texte de salut d'irrémédiable, puisque Margaret Mead décède donc en 78. Et Rouche écrit ce texte-là pour nous aider à nous souvenir d'elle. Et il mentionne le film. Donc le film est fini en 78. Il est projeté à Paris à la première édition du d'une manifestation que Rouch a créée à ce moment-là, cette année-là, qui s'appelait Regard comparé, et qui aujourd'hui a conflu dans le festival Jean Rouch, toujours en cours au Musée de l'Homme qu'est Branly. Et voilà, c'était la première édition de Regard comparé où le film à Marguerite Mead a été montré. Il a été tourné donc en 77 à l'occasion de l'hommage que rendait le Muséum d'Histoire Naturelle à l'anthropologue cinéaste pour ses 75 ans. Et donc à l'occasion liée du premier Marguerite Mead Film Festival. Première édition cette année-là. Donc le festival de Margaret Mead et les regards comparés sont presque contemporains. Voilà, donc je vous propose de passer de l'écrit au film. L'écrit de 60... Ah oui, juste vous dire où il prend place, l'écrit. Donc il est publié dans un livre dirigé par Claudine de France, qui sort en France en 79, et qui est un des livres importants pour l'institutionnalisation de la discipline de l'anthropologie visuelle. Ça s'appelle « Pour une anthropologie visuelle », et qui découle lui-même, c'est pratiquement des actes de colloque, d'un colloque fait à Chicago, en présence de Marguerite Mead, de Jean Rouch et de beaucoup d'autres, en 73, quelques années plus tard. Donc il y a d'abord une édition américaine de ces actes-là, en 75, dirigée par Paul Hawkins, et Claudine de France en fait une version française, remaniée, un peu différente. Et à la fin du volume, donc, est publié le texte de Rouch en hommage à Margaret Mead. Merci beaucoup, Noël.
Plus de 5 ans ont passé depuis que le 9e congrès des sciences anthropologiques et ethnologiques de Chicago, sous l'impulsion de Margaret Mead, adopta à l'unanimité cette résolution si simple et si généreuse. Mais Margaret ne sera plus jamais là pour défendre l'indéfendable, pour cautionner, auprès des tenants du procès-verbal anthropologique, les expériences cinématographiques incertaines des maniaques de la caméra participante. Pourtant, jamais notre jeune discipline n'a eu un tel besoin de soutien, aussi bien du côté des universités et des instituts de recherche que du côté des fondations. Margaret, chère bergère de nos rêves, parfois furtivement entrevue sur les écrans de nos laboratoires, trotte menue à la houlette légendaire, petite sorcière d'un Salem plus cruel qu'au temps de l'Inquisition puritaine, mais aussi plus courageuse, plus libre et infiniment plus drôle, vaut que vos Sisters of a Revolution, comment dire ici votre rôle essentiel. Pour moi, vous êtes de la race de ceux qui mesurent le prix de leur travail au poids de son rejet. Et je ne peux m'empêcher de vous comparer à Marcel Griaule, dont la hardiesse rigoureuse ne pouvait susciter que le scandale et la méfiance. Pourtant, comme vous le disiez vous-même si souvent, « Visual anthropology is a work in progress », l'anthropologie visuelle est un travail en cours. Et maintenant, nous avons à suivre vos traces de pionniers. Le comité pour l'anthropologie visuelle d'urgence que vous aviez fondé à Chicago et qui avait été placé sous votre responsabilité prestigieuse a commencé à collecter les fonds qui permettront un jour de réaliser votre grand rêve de disposer d'une banque internationale d'images sur les activités des hommes de tous les continents. Le comité international du film ethnographique et sociologique est devenu un comité international des films de l'homme. Et s'il n'a pu maintenir une revue internationale des films ethnographiques, comme il l'avait entrepris avec Venezia Genti, qui a sombré dans la lagune avec la Mostra Internationale del Cinema, il a pu, pratiquement chaque année, susciter des rencontres internationales importantes où se sont confrontées nos expériences cinématographiques. En novembre 1978, vous deviez présider à Paris, au Centre National de la Recherche Scientifique, ce colloque étrange, Regard comparé, où nous avons partagé entre anthropologues et cinéastes des images toujours différentes des mêmes Indiens Yanomami de la frontière du Venezuela et du Brésil. Cependant, Émilie de Brigard, John Marshall et moi-même avons tenté de pallier votre absence en projetant ce Portrait by a Friend, ce ciné-portrait de Margaret Mead, que nous avions filmé un an auparavant lors de votre jubilé au Muséum d'Histoire Naturelle de New York. L'année prochaine, nous comparerons les regards cinématographiques posée sur les bushmen du désert du Kalahari. Enfin, comme vous l'aviez souhaité, les filmés d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique ont pris la relève. Partout, ils ont commencé à enregistrer eux-mêmes les images qui les concernent directement. Parfois au prix d'acrobaties techniques incroyables, tels ces Esquimaux du Grand Nord qui tournent en Super 8 dans leur propre langue, des petits films très simples que l'on diffuse ensuite par satellite aux autres groupes Esquimaux perdus sur la banquise. Voyez, chère Margaret Mead, le travail est en cours, puisque désormais, Nanook of the North filme avec la caméra de Robert Flaherty.
Quittons maintenant un petit peu le monde de l'anthropologie visuelle, entrons dans le monde du cinéma tout court, pour rencontrer deux très grands documentaristes, Joris Ivens et Henri Storck, très amis entre eux et très amis avec Jean Rouch, avec un premier texte d'abord, qui est dédié à Ivens. Joris Ivens disparaît en 1989, l'année suivante, Marceline Loridan Ivens, donc son épouse, crée la Fondation européenne Joris Ivens, toujours existante, et ensuite est créée l'Association des amis de Joris Ivens. Marceline Loridan est présidente de la Fondation, Jean Rouch est président de l'association, et donc chaque année, ils se réunissaient à Paris, les membres de l'association. Souvent, Rouch n'était pas là. Et c'est ce texte de circonstance qui va être lu maintenant. Donc c'est l'Assemblée Générale de 1994. Rouch l'écrit la veille en voiture, dans sa fameuse deux chevaux, avant de partir à Berlin présenter un film. Donc il s'excuse de ne pas être là et fait lire le texte. Donc ça c'est un des textes du recueil qui a une origine orale, ce n'est pas le seul. Beaucoup sont rédigés de manière normale, mais certains sont dictés comme celui-ci. Il a été lu à l'époque par Brice Aounou, qui était un des amis assistants de Rouch. Ce texte, qui est un hommage à Joris Ivens et à Marceline Loridan en même temps, qui était présente à l'Assemblée, elle, est très touchant, je trouve, parce qu'il il dit comment est né l'amour entre Ivens et Marceline Loridan, c'est-à-dire par un film, et par un film très, très connu qui n'est autre que Chronique d'un été, Noël vous le lira, vous verrez les circonstances de la découverte, et donc après on montrera les deux premières séquences de Chronique d'un été, où l'on voit apparaître donc Marceline Loridan pour la première fois, encadré par Jean Rouch et Edgar Morin, les deux auteurs réalisateurs du film, aux prises avec eux, et elle se débrouille assez bien. Voilà. En tout cas, cette apparition-là a suscité l'amour chez Joris Ivens. C'est une très belle histoire d'amour au cinéma. Voilà, donc le texte et le petit extrait de Chronique après.
Chers amis, je suis un président inexcusable. La dernière fois que je suis venu à cette Assemblée générale, j'étais en retard par suite d'un contrôle de faciès douteux subi par celui qui vous lit ce mot. Aujourd'hui, je suis purement et simplement absent. Je présente en Allemagne le film « Couleur du temps, Berlin, août 1945 ». En présentant ce même film au dernier mercredi de la SCAM à la Vidéothèque de Paris, nous avons découvert, Marceline et moi, un point commun. Pendant l'occupation, nous étions, elle et moi, des azous, c'est-à-dire des hors-la-loi vestimentaires. Et si je me permets de rappeler ces souvenirs cruels, c'est parce que je suis un peu le père de Marceline, tout en étant le petit-fils de Joris Ivens. J'ai renversé, sans le vouloir, les droits d'aînesse en les mariant. Quand nous montions avec Edgar Morin, Chronique d'un été, le producteur, Anatole Doman, avait demandé à quelques réalisateurs de venir donner leur opinion sur le montage. Henri Storck m'avait dit « Arrête tout de suite, c'est formidable ». La semaine suivante, c'était le tour de Joris Ivens. Il regarde le film avec passion et à la fin, comme dans un grand nuage, il pose une seule question. Mais qui est donc cette jeune femme ? Ce fut le début d'une extraordinaire histoire d'amour que la disparition de Joris ne saurait arrêter, puisque tous les ans, nous nous retrouvons ici pour les fêter, elle et lui. Chers amis, à l'année prochaine.
Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité.
Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normalement. Mais pour essayer.
Moi, je crois que j'aurai pas mal de difficultés.
Pourquoi?
Parce que je suis un peu intimidée.
Vous êtes intimidée par quoi?
Je suis intimidée parce que... À un moment donné, il faut être prêt, puis je ne suis pas forcément, je crois.
En ce moment, vous n'êtes pas intimidée.
Tout de suite, là, non.
Bon, alors, vous n'êtes pas intimidée maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, il est toujours temps de couper. Donc, vous n'avez pas à être intimidée.
Mais je suis moi maintenant tout à l'heure parce que j'ai pas été attaquée de front, je crois.
C'est ce brigand là.
Oui.
Bon alors, vas-y, moi, attaque.
Bon, j'attaque quand même, écoute. Oui. Tu ne sais pas la question qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu, ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. Et alors, commence par toi, parce que tu vas participer d'une façon très intime à notre entreprise, à notre film. Et puisqu'il faut commencer,
que faites-vous toute la journée? Par exemple, quand vous levez le matin, que faites-vous?
En général, je travaille.
Quel travail?
Je fais des enquêtes de psychosociologie. Dans une boîte de psychosociologie appliquée. Mon travail est de faire des interviews, d'analyser ces interviews, éventuellement en faire les synthèses, ce qui m'absorbe quand même pas mal de temps, je crois.
Ça vous intéresse?
Non, pas du tout.
Oui. Lorsque vous sortez dans la rue le matin,
oui.
Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire dans la journée?
Écoutez, il arrive des fois quand je sors dans la rue le matin que j'ai des choses à faire, mais il n'est absolument pas certain que je les fasse. Je ne sais d'ailleurs jamais exactement ce que je ferai le lendemain. Je vis d'ailleurs en pensant que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Et puis, pour moi, l'aventure est toujours au coin de la rue.
Voilà, et dernière partie de notre séance d'aujourd'hui, on reste avec Joris Ivens et Henri Storck, auxquels s'ajoute aussi Luc Deutsch. Donc, vous avez vu, c'est souvent une histoire de parenté. Rouch appelait Henri Storck notre oncle. dans le texte de Luc de, à Luc Deutsch qu'on va vous lire. C'est Henri Storck, c'est un des pères du documentaire en Belgique. Il a créé la Cinémathèque royale de Belgique également. Il a animé un ciné-club très tôt. Il a rencontré dans les années 20 Yuri Sivens, aussi éminent documentariste, voilà. Et ils ont évidemment croisé leurs regards. Ils ont fait un film en commun, Misère au Borinage, qui est un chef-d'œuvre de 1933. Et voilà, donc il y a cette espèce de collectif, disons, autour du cinéma et du cinéma documentaire, du cinéma du réel, auquel Rouche se joint. Et puis donc Luc Deutsch aussi, et nous retrouvons par là aussi l'anthropologie visuelle, puisque Luc Deutsch est un des grands ethnologues belges, enfin européens tout court, et cinéaste également, comme Rouche. Deutsch et Rouche suivent les cours à la Sorbonne de Marcel Griaul, ensemble d'abord Rouche, puis Deutsch, tous les deux on partage ce maître commun. Voilà. Et donc maintenant on verra d'une part le ciné-portrait, le double ciné-portrait que Rouche fait de Yuri Sivens et de Henri Storck, et puis on écoutera le beau texte d'hommage qu'il écrit pour Luc Deutsch. Le ciné-portrait est de 1980. Il est tourné en Hollande, pas très loin de Leiden, au bord de la mer. Rouche, cette année-là, a été honoré par l'université de Leiden. Il a reçu un doctorat de honoris causa. Et donc, ils font une dizaine de kilomètres tous les trois, puisque le prix lui est remis par Yuri Sivens en personne. Henri Storck est présent aussi. Et tous les trois se rendent à la plage, à la mer, et tournent, improvisent un petit peu ce film, qui est tourné d'ailleurs le jour d'anniversaire de Rouche. Et donc, c'est un ciné-portrait un peu plus complexe que ce que nous venons de voir. Il a deux personnes à qui il rend hommage en même temps, et puis ça fait un petit trio avec Rouche aussi, et puis on voit également, puisqu'il est filmé à deux caméras, les techniciens entre guillemets, c'est-à-dire un couple image-son et un deuxième couple image-son, Rouche faisant les images d'un des deux couples. On voit aussi par ailleurs, par exemple, Jane Rouche qui est présente également et qui fait des photos en même temps. Donc voilà, il y a beaucoup de monde en même temps et les regards se croisent. Donc c'est un ciné-portrait assez complexe et stimulant. Quant au texte à Luc Deutsch, donc Luc Deutsch non seulement commence à faire du cinéma en étant assistant d'Henri Storck dans les années 40, mais surtout il épousera sa fille Marie Storck, avec qui il ira en Afrique notamment en 53-55. Il ramènera ses premiers films ethnographiques tournés au Rwanda, et voilà, après ils se sépareront et Luc Deutsch aura quatre épouses, mais il restera toujours très proche d'Henri Storck. Et par exemple, Storck apparaîtra dans le dernier film de Deutsch consacré à Ansor. Parce que Luc Deutsch non seulement fait des films sociologiques, non seulement il fait des films ethnographiques, mais également énormément de films sur l'art, et notamment sur des artistes belges qu'il connaît très bien, comme Leczinski, et justement ce grand ancêtre de l'art moderne en Belgique, qui est James Ansor, que Henri Storck connaissait dès les années 40, qu'il allait visiter, qu'il allait photographier, etc. Voilà, et donc Henri Storck est par exemple invité dans le film de Luc Deutsch dédié à James Ansor. Voilà, donc nous nous trouvons d'abord en Belgique. Il y a ce très beau portrait écrit de Luc Deutsch par Rouche qui prend place dans un numéro hommage à Luc Deutsch fait par l'Université libre de Bruxelles, où il a enseigné toute sa vie. C'est un numéro spécial de la revue de l'université, publié en 1991. Et dans la section témoignages, il y a ce texte très beau, un peu long, de Rouche, écrit pour l'occasion. Il y a aussi des témoignages de Germaine Diterlin sur Luc Deutsch, etc. Voilà. Donc ça, c'est le texte de 1991, qui sera suivi donc par ce formidable double ciné-portrait de Henri Storck, l'oncle, et Joris Ivens, le grand-père. Voilà. Merci, Noël.
Au moment même où le monde se fracasse avant d'entrer dans le troisième millénaire, où tout un groupe de chercheurs en sciences humaines perdent à jamais leur idéologie, on attend avec une infinie curiosité leur manifeste, il est bon que ceux qui n'ont jamais été dupes se comptent et se soutiennent. En se souvenant de ce que leur avait crié Arthur Rimbaud, « Voici le temps des assassins », et de ce que leur avait répété André Breton, « La poésie sera convulsive ou ne sera pas ». Nous avons été formés à cette discipline exigeante. Moi, au temps tragique de la guerre d'Espagne, où la Catalogne libertaire était assassinée par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, et de l'épisode sinistre de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, dont l'un, Eugène Dabi, parti avec André Gide, mourut avant le retour du RSS. Toi, Luc, après la guerre, quand tu rejoignais l'International des artistes expérimentaux, le groupe Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, microcosme prémonitoire d'une Europe de l'art, qu'il nous reste maintenant à construire, pour tourner, en 1951, ton premier film, Perséphone, sous le pseudonyme de Zangri, mention spéciale du jury du Festival d'Heidelberg 1951. En fait, nous étions nés poètes, et nous voulions découvrir le monde. Et nous avons été tous deux étudiants d'un autre savant poète, Marcel Griaule, dont tu suivis les cours en 1952 à Paris. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 1952, à Vienne, au 4e congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques, dans l'auditorium maximum de l'université, où je passais mes premiers films, « Bataille sur le grand fleuve »,« Cimetière dans la falaise » et « Circoncision », avec le slogan provocateur « Quand les ethnographes font des films, ils sont peut-être ethnographiques, mais ce ne sont pas des films. Et quand les cinéastes font des films, ce sont peut-être des films, mais ils ne sont pas ethnographiques. » Toi, tu venais d'épouser Marie Storck, la fille de notre oncle Henri Storck, et d'acheter une caméra Bell & Howell. Vous avez rapporté d'Afrique deux films, « Faites chez les Amba et Rwanda », que nous avons programmé 2 ans plus tard pour la première semaine internationale du film ethnographique au Musée de l'Homme, du 9 au 14 mai 1955. Quelle semaine! Tous les ancêtres, tous les copains étaient là. L'oncle Henri Storck nous avait adressé son salut. Basil White avait apporté de Londres « Je suis un homme » qu'il venait d'achever pour l'UNESCO. Jean Gabus arrivait de Neuchâtel avec Marché soudanais. Le tout neuf Bororo d'Henri Brandt et la toute timide Jacqueline Reber, qui ne s'appelait pas encore Jacqueline Veuve. Henri Langlois apporta lui-même « Mélodie du monde » de Walter Ruttmann et son écho surréaliste d'alors, « L'invention du monde » de Zimbaka et Bédouin. Alain René témoignait de son amitié, avec les statues meurtes aussi. Patrick O'Reilly était là avec Popoko, futur Bougainville. Pierre Bromberger venait d'achever sa course de taureau avec l'inoubliable commentaire de Michel Léris. Enrico Fulcignoni, déjà notre complice à l'UNESCO, nous faisait voir l'art précolombien. Paulin Vieira, encore élève à l'IDEC, nous présentait les 2 premiers films africains, Mouramani, conte guinéen tourné par Mamadi Touré dans le bois de Vincennes, et Afrique sur scène, qu'il achevait de monter avec le Sénégalais Mamadou Sarr, le musicologue guinéen Jacques Mélo Canet et le caméraman antillais Karistan. Ce fut notre première et tapageuse participation à un colloque de l'UNESCO, le rôle de l'image dans les civilisations contemporaines, dans le cadre irremplaçable de la salle de cinéma du Musée de l'Homme. Cette salle, première véritable salle de cinéma bâtie dans un musée, juste avant la guerre, avait accueilli Flaherty, invité par Henri Langlois. Puis, pendant l'occupation allemande, elle avait été le refuge des résistants Boris Vildé, Deborah Lifschitz et Yvonne Audon, qui renéotaient le premier journal de la Résistance, ici même, derrière l'écran. C'est là encore que la Cinémathèque française programma tous les films interdits. C'est là enfin qu'en 1947, André Leroy-Gourhan donna ses lettres de noblesse au cinéma ethnographique. Cette salle, nous avons tenu le pari de la remplir, du matin au soir, pendant 6 jours, d'un public de professionnels, d'étudiants, de chercheurs ou de simples amateurs. Ils étaient venus là pour revoir leurs classiques, Nanook et Man of Aran, Que Viva Mexico et Goemon, ou pour retrouver des films oubliés, Pasqua in Sicilia, Mewards of North Borneo, Carnaval de Binche de Jean Clinge, ou enfin pour découvrir des œuvres si récentes qu'elles n'étaient pas encore montrées, Bororo, Rwanda, Les Maîtres Fous. Si je parle ainsi en détail de cette manifestation, c'est que ta participation si active et pertinente pendant toutes ces journées devint soudain essentielle. Je projetais un original non encore monté de Maître Fou, dont j'improvisais le commentaire depuis la cabine de projection. Par la fenêtre, j'entendais de plus en plus la réaction du public, des vagues de protestations qui se transformèrent vite en tempêtes. Quand je redescendis dans la salle, au milieu de la consternation générale, tu fus le seul à applaudir. Mais je dus affronter la colère des autres. Marcel Griol, rouge de fureur, me dit « Il faut détruire ce film immédiatement ». Mes amis africains étaient gris de colère. Et Paulin Vieira dit « Pour une fois, je suis d'accord avec le professeur Griol. Il faut détruire ce film scandaleux ». Mais toi, Luc, tu te levas pour déclarer très fermement « Jean ne les écoute pas ». Termine ce film. Dans quelques années, il sera un classique non seulement du film ethnographique, mais du cinéma tout court. Et je veux te dire aujourd'hui merci de ce courage si fraternel et si direct qui permit à Maître Fou d'exister. Ce soir-là, Luc, tu étais dans le droit fil d'Henri Langlois, tu avais sauvé un film. Depuis ce temps-là, nous avons été les inséparables complices de l'aventure tout risque qui consistait à partager nos activités entre l'ethnographie classique et le cinéma. Si notre école buissonnière m'entraînait vers des films de fiction, toi, tu revenais tout naturellement à Cobra, en créant ces films d'art accomplis que sont Michel Le Gueldérode, 57, Magritte ou La leçon de choses, 60, Alechinski d'Après nature, 70, D'Autremont les logogrammes, 72, Portrait inoubliable du fondateur du mouvement Cobra, et enfin, Je suis fou, je suis sot, je suis méchant, autoportrait de James Sansor, qui obtint le grand prix de la mise en scène au Festival international du film sur l'art en 90. Tu n'oubliais pas pour autant les sciences sociales. En 58, suivant l'idée de Paul Rivet, alors directeur du Musée de l'Homme, tu réalisas Les gestes du repas, qui obtint le prix spécial du jury à Tours en 58. En 60, ton film d'urbanisme 6000 habitants obtenait le premier prix du Festival de Porto Rico. Les Amis du plaisir sur le théâtre populaire belge reçut le premier prix d'Oberhausen en 62, un diplôme spécial du Festival de Venise en 61 et le prix du Festival dei Popoli de Florence en 62. Il manque 2 œuvres que je n'oublie pas et qui furent, comme beaucoup de mes films, un total fiasco. Jeudi, on chantera comme dimanche, suite tendre et cruelle du borinage de Storck et Divins, que Suzanne Baron monta d'un ciseau magistral et qui n'eut que notre audience. Et surtout, Libre Examen, 68, journal de route de la contestation de Bruxelles en mai 68, et qui reste aujourd'hui le seul document réalisé pendant cette singulière révolution poétique filmée par l'un de ses protagonistes. Et comme tu étais parti avec Storck à la poursuite des Gitans, oh, cette rencontre avec à ce mariage raté des Gitans d'Athènes, tu t'évadas avec une étudiante haïtienne sur les traces du vaudou. J'ai mis à part Sur les traces du renard pâle, recherche en pays d'Ogon, 31-83-84, réalisé en toute complicité et en tout plaisir avec Germaine Dieterlen et moi-même. D'autres que moi traiteront du travail strictement ethnographique et ethnologique de Luc de Heuche. Une 10aine de publications essentielles, depuis les essais sur le symbolisme de l'inceste royal en Afrique, 58, jusqu'aux écrits sur la royauté sacrée, 87, où pour moi s'impose Le roi ivre ou l'origine de l'État, mythe et rite bantou, 72, qui classe Luc parmi les très grands penseurs en sciences humaines de la fin de ce siècle. Si je regrette que cette théorisation ait été faite au détriment du recueil ethnographique sur le terrain, elle révèle une telle acuité de pensée que l'on ne peut s'empêcher de la comparer à celle de Marcel Mauss. Et même si pour beaucoup de chercheurs du monde entier, tu es l'un des experts du structuralisme, tu es pour moi l'un des chercheurs d'avant-garde en ethnographie que tu as su maintenir hors des méandres idéologiques. Curieusement, Luc avait pressenti ce danger dans ce merveilleux essai « Cinéma et sciences sociales, panorama du film ethnographique et sociologique » publié en 1962 par l'UNESCO et préfacé par Edgar Morin. Ce travail, malheureusement épuisé, mériterait d'être republié, remis à jour, tant il est à la fois un dictionnaire et une réflexion sur les termes qu'il compose. Par exemple, il nous révèle le professeur tchèque Karel Plica, qui, au colloque de Prague, dans son rapport inaugural de 1958, « Les questions fondamentales du film ethnographique », prévoyait « Chaque sujet pose au scénariste ethnographe et au metteur en scène cinéaste des tâches toujours nouvelles qui ne peuvent se répéter ». Alfred Métraux, lui, répondait dans son rapport « La science ethnographique et le film » qu'il plaçait de grands espoirs dans le film véritablement scientifique réalisé par l'ethnographe même, filmant sans idée préconçue, sans chercher prématurément à opérer un classement par ordre d'intérêt. Et Luc, sans conclure, ajoute « Le langage utilisé par la sociologie est volontiers abstrait, voire énigmatique, parfois même incompréhensible. À cet égard, le film apparaît déjà comme un contrepoint salutaire à l'expansion désordonnée et parfois démentielle du jargon sociologique actuel. Un sourire, la crispation d'un visage, restitue à l'écran la présence sensible de l'homme, enseveli sous les arides traités que nous sommes tous coupables d'écrire. » Est-ce cette attitude non conformiste qui lui a valu tous les honneurs et tous les oublis ? Il était pour moi le meilleur africaniste de la 5e section de l'École pratique des hautes études, le meilleur animateur scientifique de notre laboratoire de recherche associé 221, CNRS-PHE, Système de pensée en Afrique noire, le plus brillant visiting professor de Max Gluckman à l'Université de Manchester. Il était l'un des vaudouisants qui prenait tous les risques et remettait toutes les pendules à l'heure. Il était enfin l'un des derniers surréalistes. Fidèle ami de l'inoubliable Joyce Mansour, chez qui il devisait en toute liberté avec Alechinsky, de la liberté, de la poésie et de l'amour. Dans les années 80, tu organisas chez toi à Bruxelles une cérémonie d'anniversaire pour Germaine Dieterlen. Ce fut une fête extraordinaire, où tous les amis français et belges se groupaient autour de celle que nous appelons Tante Germaine pour lui témoigner notre affection. C'est là que tu eus l'idée de réaliser avec nous un projet, 50 ans de recherche en pays d'Ogon, et grâce à ton enthousiasme, le projet se réalisa. Nous partîmes tous dans la falaise de Bandiagara, et tu nous demandas de jouer tous les rôles de cette aventure qui nous concernait directement. J'y fus guide, tambourinaire de tambour de pierre, et même Marcel Griol questionnant avec Cogem le vieil Ogo Temelli au temps ancien de Dieudo. Ce film singulier m'a un peu agacé parce que tu avais tendance à me donner le premier rôle. Mais le temps passant, il est devenu peut-être la chronique la plus exacte et la plus tendre de ces fous de la falaise à la recherche du renard pâle. Voilà, Luc, ce que je voulais te dire dans le plus grand désordre, celui-là même que nous avons appris en déchiffrant les tables de divination du Yurugu, ce renard fantasque qui écrit avec ses pattes non pas les nouvelles de la veille, mais celles du lendemain. Et je voudrais, pour clore cette promenade dans les souvenirs et justifier le titre de ce témoignage, citer Arcane 17 d'André Breton. Je n'oublierai jamais la détente, l'exaltation et la fierté que me causa une des toutes premières fois qu'enfant on me mena dans un cimetière, parmi tant de monuments funéraires déprimants ou ridicules, la découverte d'une simple table de granit gravée en capitale rouge de la superbe devise « Ni Dieu, ni Maître ». Car après tout, comme Thème s'en sort, toi et moi nous sommes fous, nous sommes sots, nous sommes méchants.